Chapitre 99. Gorge d'Aora, Turquie. Le soleil matinal cuisait déjà les tufs de la strate de basalte. Plus aucun arbre n'offrait d'ombre aux marcheurs depuis des centaines de mètres. À chaque nouveau pas d'Arsène et Cécile, la plaine en contrebas rapetissait. Les tentacules des Révanes poussaient en étoiles le long des routes jusqu'au méandre de l'Arax. La vision panoramique de la région rendait inimaginable qu'une frontière infranchissable barre le paysage, tel un fou qui se serait amusé à lacérer un tableau de maître. Arsène et Cécile progressaient sans forcer l'allure. Arsène avait réveillé Cécile un peu plus d'une heure auparavant. Le professeur avait ouvert sa tente et passé une tête joyeuse entre les deux pans de toile.
« Debout, Cécile, c'est le grand jour !»
L'odeur du café chauffant dans la casserole d'alu avait chatouillé agréablement les narines de la jeune femme. Prise par surprise comme elle l'était, les demandes d'explications qu'elle avait ressassées pendant la nuit agitée étaient restées bloquées dans sa gorge. La veille au soir, Cécile avait remis le portefeuille à sa place dans le sac d'Arsène, à l'exception des 4 photographies qu'elle avait glissées dans la poche de son jean. Puis elle était rentrée sous sa tente et avait rêvé de vipère toute la nuit. Cécile avait dévoré un paquet entier d'une sorte de bouillie de polenta compressée, supposée hautement nutritive, arrosée d'un litre de café bouillant. Il longeait un long couloir d'ébouli, ouvert tel de grandes lèvres sombres sur une bouche de cendre. L'ascension était à présent pénible. Il se cognait fréquemment les genoux sur les laves coupantes, se râpait les mains en prenant appui sur des trachytes, retombait parfois les deux pieds dans la boue. Au fur et à mesure que l'altitude s'élevait, la neige apparaissait de plus en plus fréquemment. Quelques centaines de mètres au-dessus d'eux, ils distinguaient la moraine frontale du glacier Paro, d'où, goutte à goutte, s'écoulait un mince filet d'eau grise.
« La gorge d'Aora, »
expliqua Arsène en prenant le soin de reprendre son souffle entre chaque mot,
« fut pendant des millénaires le seul versant habité du massif de l'Ararat. On y cultivait même la vigne, conformément à la légende qui prétend que Noé serait descendu de l'arche par cette voie et aurait planté un cep. »
Il respira lentement, posant avec précaution un pied au bord de la brèche.
Outre Coran, le village d'Aora était situé sur les hauteurs, un peu en contrebas du monastère Saint-Jacob, près de l'ancienne source. C'est après avoir séjourné plusieurs jours chez les moines en 1829 que Friedrich Paro réussit la première ascension du mont Ararat. Ironie du sort, le 20 juin 1840, un terrible tremblement de terre suivi d'une éruption phréatique détruisit en quelques heures toute trace de vie sédentaire sur le mont. La source Saint-Jacob en fut même déplacée, tandis que toute trace du village et du monastère disparaissait dans le gouffre, comme si l'Ararat, vexé d'avoir été violé, avait décidé d'enfuir pour l'éternité ses secrets dans ses entrailles. Hommes, maisons et églises.
Cécile demeurait silencieuse. Il fallait s'exprimer le moins possible pendant les longues ascensions. Elle savait au moins cela. La leur devait durer une dizaine d'heures. Elle parlerait plus haut. Il longeait la brèche depuis de longues minutes, lorsqu'Arsène tourna la tête et cria, surexcité.
« L'arche, Cécile, l'arche !»
Le doigt d'Arsène se dressa, désignant aux 2/3 de la montagne une proue noire dépassant d'un ensemble de roches plus claires. Cécile suivit des yeux la direction indiquée par l'index du professeur. L'illusion d'optique était parfaite. On aurait pu jurer apercevoir la proue d'un vaisseau encastré dans le bloc de rocher. Ils s'approchèrent, et la proue se transforma en un simple piton rocheux. Arsène pointait toujours le doigt.
« C'est cet éperon que les moines arméniens d'Ekmiadzin observèrent pendant des siècles à la lunette, affirmant aux voyageurs qu'il s'agissait là de la preuve irréfutable que l'arche reposait bien sur la montagne interdite. Du coup, pas besoin d'aller la déranger. L'illusion est parfaite, non ?»«
Trop, »
répondit Cécile à voix basse. Arsène tendit l'oreille.
« Trop parfaite ?»
« Tout est trop parfait, »
murmura Cécile entre ses dents. Ils se turent pendant plus de 2 heures, échangeant simplement la gourde et quelques barres de céréales. Arsène Pareja montait toujours à un rythme régulier, faisant preuve d'une étonnante résistance pour son âge. Il y a encore quelques jours, Cécile n'aurait pas cru son directeur de laboratoire capable de courir un 100 mètres. « Un mensonge de plus, » songea-t-elle. Ils contournaient maintenant les névés. Parfois, entre les glaciers et la paroi rocheuse, des boues s'écoulaient, trouées de bulles de gaz sulfureuses. Plus loin, ils apercevaient des champs de petits cônes de cendres et de terre orangée, comme autant de volcans miniatures. Le décor devenait plus lunaire que terrestre.
« Nous devons avoir dépassé les 3000 mètres !»
indiqua Arsène. Les poumons de Cécile n'avaient jamais travaillé autant, même lors de ses explorations dans le cercle polaire. Arsène semblait parfaitement s'adapter à l'altitude, parvenant à la fois à marcher en cadence et à commenter le paysage.
« Le légendaire lac de Kopp se trouve juste au-dessus de nous, en surplomb, derrière la falaise. »
Son professeur s'attendait sans doute à ce qu'elle demande
« Pourquoi légendaire ?»
Cécile ne lui offrit pas ce plaisir, se contentant de remarquer que deux langues glaciaires venaient se perdre dans le lac invisible. Paria soliloquait avec l'aisance d'un guide qui réciterait son topo à des groupes différents toutes les demi-heures.
« Beaucoup d'explorateurs de l'Ararat ont passé des jours et des nuits sur les rebords du gouffre d'Ahora à rechercher ce mystérieux lac de Kopp. Il faut dire que, si, vu du ciel, on repère assez facilement sa tache sombre, il est particulièrement difficile d'accès à pied. »
Cécile continuait de marcher, tête baissée. Arsène insista.
« C'est dans ce lac que l'aviateur russe Roskovitsky prétend avoir vu l'Arche de Noé à moitié immergée en 1917. C'est en direction du lac de Kopp que le tsar Nicolas II lança sa fameuse expédition dont le rapport fut égaré pendant la Révolution d'Octobre. »
Cécile prit enfin la parole. Elle adopta le ton cassant de celle qui sait de quoi elle parle.
« Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les glaciers sont des êtres vivants qui se déplacent, glissent, chaque saison, chaque année. Vouloir repérer aujourd'hui un lac glaciaire localisé il y a un siècle, qui plus est dans un contexte tectonique aussi instable, est une aberration géologique. »«
C'est vous la spécialiste ?»
commenta laconiquement Arsène. Il sortit la gourde, en but une longue rasade et l'attendit à la chercheuse.
« Courage, Cécile. Encore quelques centaines de mètres au milieu des tufs et nous atteindrons un premier plateau. Des herbages d'altitude, une prairie presque sans rochers où coule la fameuse fontaine Saint-Jacob. »
« Là-haut, pensa Cécile, je parlerai là-haut, près de la fontaine. Puisqu'Arsène Pareia apprécie les symboles, la source sera un excellent endroit pour faire jaillir la vérité. »